Bien, nous reprenons pour une nouvelle session de ce colloque autour de trois termes qui nous sont proposés pour cette session. Trois termes, imitation, appropriation, mutation. Trois termes qui étaient au départ prévus pour trois intervenants, même s'il n'était pas question que chacun s'arrête plus particulièrement sur l'un de ces thèmes. Mais de ces trois intervenants, il n'en reste plus que deux. Ce qui évidemment n'est pas une bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est que on s'est débarrassé de l'ennui, puisque c'était le thème de proposé par Didier Lapeyroni. Je dis ça juste pour faire un bon mot, parce que je pense que sa communication aurait été intéressante, si j'en juge par le petit texte qu'il a produit. Mettre en rapport la question de l'ennui avec celle de la création me paraît en effet prometteur. Donc deux intervenants, Michael Lucken, qui est à ma droite et immédiate, et à qui je vais d'abord passer la parole. Il est professeur à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales, et c'est la question de l'imitation en particulier qu'il va adresser en le faisant avec le cas japonais. On perçoit souvent les Japonais comme les imitateurs, pour le dire autrement, parfois même les voleurs de nos technologies en particulier, et même chose dans la culture. Et là, on a un cas intéressant qui permet de poser la question de l'imitation de façon plus générale, en décentrant un petit peu le regard. C'est ce que vous allez nous dire, Michael Lucken. Et puis, à votre droite, Esteban Bourg, qui lui va s'arrêter sur la question de la création, en se demandant s'il y a véritablement création ou si tout est déjà là, d'une certaine façon. Vieille question, mais qui demeure extrêmement pertinente à mesure que se développent différentes pratiques esthétiques dans différents champs. Je crois que la musique retiendra particulièrement votre attention. Esteban Bourg est directeur d'études à l'EHESS, où il dirige le centre de recherche qui s'appelle le CRAL. Voilà, ben je vous passe tout de suite la parole.
Merci beaucoup, merci de votre présentation, merci de votre invitation. Je vais voir si j'arrive à lancer. Bon, je vais le lancer dans un instant. Vous connaissez tous, hein, j'imagine, le stéréotype de japonais imitateur, le japonais qui ne s'est pas inventé, qui ne fait que reprendre des techniques, des arts qui ont été développés ailleurs. Puis en même temps, paradoxalement, je pense que beaucoup d'entre vous ont en tête cet attachement, cet intérêt, cette fascination que beaucoup de jeunes, en particulier, ont pour la culture japonaise, qui est pour eux une culture éminemment créative. Hein. Et donc on a, avec le cas japonais, un effet de renversement qui est tout à fait stupéfiant, puisque entre le 18e siècle, qui est le moment où émerge ce stéréotype de japonais imitateur, jusqu'à aujourd'hui où on voit, même s'il existe toujours, un renversement se finaliser avec des jeunes pour lesquels cette image ne fait plus vraiment sens, on a un cas extrêmement passionnant. C'est en fait assez récemment qu'on a vu une critique émerger du stéréotype de japonais imitateur. Quelqu'un comme Alain Perfit, hein, dans les années 80-90, qui s'intéressait beaucoup à l'Asie, comme vous le savez, a contribué à remettre en cause cette idée que le Japon était fondé sur une culture de la copie, de l'imitation. Et je trouve dans un colloque de 96, hein, cette idée que les Japonais ne sont pas des imitateurs, et dit-il, ils pratiquent l'imitation créatrice. C'est son mot. Et puis il poursuit avec un commentaire un peu plus général: la véritable imitation consiste en une recréation maîtrisée. Donc on trouve notre terme qui nous rassemble ici aujourd'hui, ce mot de recréer, qu'il a appliqué à la culture japonaise en son temps. C'est un mot qu'on trouve au Japon aussi. Il est assez régulièrement utilisé, même, je dirais, beaucoup utilisé dans le domaine de l'histoire de l'art, chez les anthropologues. Quelqu'un comme Yamada Shoji, qui est un universitaire qui est venu plusieurs fois ici en France donner des conférences, utilise beaucoup ce terme sous sa version sino-japonaise, hein, qui est Saisozo, ou dans sa version occidentalisée, Li-Creation, ou Li-Creato, dans lequel vous reconnaissez évidemment l'anglais. Bien sûr, il y a aussi de nombreux artistes qui tournent autour de ce thème. Et je vais illustrer le début de ma conférence avec quelques images, un petit peu décalées par rapport au contenu de mon intervention, d'un artiste du nom de Molly Moulayas Massa, qui est un photographe et qui se met en scène dans des portraits de peinture occidentale. C'est chaque fois lui, mais dans des compositions d'artistes européens. Au premier abord, ce mot de recréer, de recréation, me semble assez séduisant. Il induit quelque chose, indubitablement, par rapport à créer, parce qu'il y a ce préfixe, il y a le re de refaire, de répéter, de redire. On part d'un modèle et puis on le reproduit. On assume une origine, autrement dit. On assume qu'on se fonde sur quelque chose pour le dépasser, ou en tout cas le refaire. C'est donc ce que je veux dire, le préfixe de l'imitation. Derrière « re », il y a « imiter ».« Recréer », c'est d'une certaine manière dire « imiter, créer, créer ». C'est l'imitation, création. On retrouve cette idée d'imitation créatrice dont je parlais tout à l'heure avec Perfit. Quant à créer, dans recréer, il est là avec toute son évidence. Autrement dit, on pourrait penser que ce mot détend le mouvement qui est caractéristique de la modernité, qui consiste à polariser imitation avec une valeur essentiellement négative d'une part, et la création avec sa valeur essentiellement positive, fondamentalement positive, de plus en plus positive, que ce soit dans le domaine artistique, création artistique, dans le domaine économique, création de valeur, dans le domaine social, la création d'emplois, etc. Ceci dit, cette polarisation, elle est complexe, elle est problématique, et ses effets délétères sont de plus en plus évidents, surtout qu'aujourd'hui, il est quand même difficile de croire à une extériorité radicale, à une extériorité absolue qui longtemps a permis de générer ce mouvement de la modernité et où les autres, les races, la nature ont servi de vivier pour le renouvellement d'un « nous » qui est évidemment éminemment problématique. Ceci dit, même si j'ai de l'intérêt pour ce mot, je suis un petit peu réservé pour la raison suivante, c'est que dans recréer, on ne dit pas imiter, créer. On n'a pas la formule de Perfit, imitation créatrice. Le re, malgré tout, il est un tout petit peu en marge. Il est un tout petit peu. Il cache un petit peu la dimension imitative. Le re est en sourdine. Et ce qu'on voit là, c'est évidemment le fait que l'imitation n'est pas au même plan que la création, elle est donc un petit peu marginalisée, elle est mise un petit peu en sourdine, comme je le disais, ce qui est le propre de la modernité, ce qui est le propre de du monde dans lequel on vit depuis la querelle des anciens et des modernes dont parlait tout à l'heure Antoine Compagnon. Ce qui fait qu'il faut sans cesse avoir recours à des stratégies de légitimation ou de stratégies d'occultation. Car la reconnaissance de l'imitation, elle trouble l'image de l'artiste ou du créateur qui sublimerait par son travail la collectivité qu'il reconnaît. Moi, je vois principalement trois stratégies. Je commencerai mon intervention par là. Tout d'abord, c'est le déni simple. C'est le plus banal, c'est le plus grossier, mais en fait, c'est le plus courant. L'art nègre ne connaît pas, disait Picasso. Je trahis un tout petit peu Picasso en disant ça, mais vous savez très bien qu'il est toujours très difficile pour un artiste de reconnaître les modèles sur lesquels il se fonde. Le nombre d'exemples où on l'a est considérable. La deuxième stratégie, c'est ce que j'appelle le cloisonnement arbitraire des espaces. L'opposition entre un « nous », ici, et un « eux » là-bas. Ce qui fait que, par exemple, au XIXe siècle, un photographe de Paris ne pouvait pas reprendre le travail d'un autre photographe, disons, de Rennes, parce qu'il y avait des droits qui étaient afférents aux œuvres, en tout cas à la fin du XIXe siècle, quand la photographie va commencer à être protégée par le droit d'auteur, alors que tel peintre pouvait reprendre très facilement, sans avoir ce problème de droit, par exemple, une œuvre de Utamalo au Japon, alors que même elle aurait été protégée s'il avait été ici par le droit. Donc il y a une espèce de cloisonnement des espaces qui fait qu'on ne peut pas reprendre ce qui est d'ici, tandis qu'on peut reprendre de manière légitime ce qui est là-bas. Enfin, C'est le phénomène de rationalisation, bien connu, le fait de passer l'imitation dans un filtre qui le transforme en une forme de causa mentale et d'effort de l'esprit. Et toutes les sciences, en partie des arts aussi, utilisent abondamment l'imitation dès lors qu'elle est domestiquée via la perspective, via la constitution de listes, de taxinomies. Les analyses analogiques, évidemment, sont les servantes extrêmement utiles de la création et de l'ingénierie. Alors pourquoi le rejet de l'imitation est-il un problème et qu'est-ce que le rapport du Japon, qui est mon terrain d'étude, à ces questions-là nous apprend ? Alors, mon premier point consiste à mettre en évidence, à rappeler, parce que je crois qu'on le sait tous, que le rejet de l'imitation est un outil de domination. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand on regarde un petit peu qui sont les imitateurs dans la littérature qu'on trouve depuis le XVIIIe siècle, on a tout un pandémonium qu'on peut définir ainsi. Alors, premier, ça va être les autres, des autres. Les orientaux, les nègres, les sauvages, des autres. Ce seront aussi les anciens aussi, hein, imitaient. Ils imitaient beaucoup, ils refaisaient toujours ce qu'avait fait leur père. Alors, ces anciens ne sont pas tous les anciens, souvent les Grecs sont un petit peu mis à part, hein, mais les hommes préhistoriques vont imiter, les Perses, évidemment, imitent, on connaît bien, on voit bien d'où ça vient. Les Chinois imitaient, les exemples sont nombreux. Les femmes imitent. Hein. Les femmes ont tendance à être passives, hein, que ce soit dans la génération physique, comme dans la création, dans le rapport à l'art. Les femmes sont passives, ça. On a des exemples multiples dans la littérature du 19e jusqu'à relativement récemment. Bon, les enfants, évidemment, les enfants, c'est des petits singes, on le sait bien. Le peuple imite beaucoup. Le peuple, il aime la photographie, le peuple, il aime le musée Grévin, le peuple, il imite, quoi. Il n'aime pas les arts de l'esprit, il aime la séduction de l'imitation. Bref, vous avez ce pandémonium qui est très intéressant à analyser parce qu'il permet d'aller au cœur de la figure inverse, c'est-à-dire de celui qui porte ce discours, c'est-à-dire de ce « nous », au cœur de la modernité, qui donc n'est aucun dans son cœur dur, dans son os, de ces figures-là. Ce n'est ni un enfant, ni une femme, ni quelqu'un d'ailleurs, ni quelqu'un du passé. C'est donc quelqu'un qui est d'ici, de maintenant, qui est anthropique. Oui, parce que j'oubliais les animaux, qui évidemment sont bien évidemment du côté de l'imitation, la fourmi étant tout en bas du spectre. Les Japonais ont longtemps été des fourmis du monde, hein, vous le savez. C'est un peu moi, en fin de compte, hein, anthropique, adulte, hein, mâle, hein, d'ici, d'aujourd'hui. C'est moi, nous. Je crois que c'est intéressant et même essentiel de se poser cette question de cette manière-là. Pourquoi ? Parce que ça nous amène à poser une question suivante. Quand on s'interroge sur la création ou la recréation du monde, mais qui est cette instance qui crée le monde ? Et pour qui ? Autrement dit, qui est ce « nous » ? Quelle est la subjectivité collective qui se cache derrière ce programme ? Sachant qu'il y a toujours une subjectivité collective qui est à l'œuvre. Alors non seulement le rejet de l'imitation est un outil de domination, mais il est aussi fondé sur une forme de mensonge ou de travestissement, parce qu'il n'y a pas de création ex nihilo. Même si on pourrait discuter, des gens comme Castoriadis ont proposé des réflexions extrêmement intéressantes, mais dans la mesure où il n'y a pas non plus de répétition à l'exact, il n'y a pas d'imitation absolue, qu'il n'y a pas de pensée héritée à l'identique, hein, je tire le fil sur Castoriadis, hein, on se rend bien compte que ce sont deux notions créées et imitées qui sont relatives, comme les graves et les aigus en musique. L'une correspond à ce que j'appelle une transformation lente, et proche de l'existant, l'autre a une transformation rapide ou distante de l'existant. Mon deuxième point est maintenant le suivant, retour sur le Japon. Qu'est-ce que le rapport du Japon à ces questions d'imitation-création nous apprend ? Alors, la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que ce modèle n'est pas l'apanage des Occidentaux. Cette polarisation de l'imitation d'une part de la création de l'autre est quelque chose qui a été repris sur le fond par les Japonais depuis bien longtemps. Même si c'est problématique. Des exemples, les centres de recherche. Il y a au Japon un grand nombre de centres de recherche qui sont nés parce qu'il y a tout un travail de promotion des sciences, dont le résultat le plus emblématique, le gouvernement évidemment adore se parer de ces exemples, le fait qu'il y ait eu beaucoup de prix Nobel. Le Japon est le pays où, en dehors de l'Occident, il y a eu le plus de prix Nobel. Et si on regarde juste depuis 2000, c'est le pays qui est le deuxième en termes d'obtention de prix Nobel derrière les États-Unis. Il y a évidemment une valorisation de l'expérimentation dans l'éducation. Il y a tout un ensemble de programmes d'encouragement de la nouveauté dans les arts et dans l'industrie. Bref, on n'est pas du tout sur un modèle saïdien. Saïd dit que les pays qui sont confrontés au modèle moderne occidental ont tendance à le répercuter de manière superficielle chez eux. Je crois qu'on n'est pas dans ce cas de figure du tout. On est dans le cas de figure d'une adoption sur le fond de ces modèles-là. Autre manière de le dire, dès lors que ça a été adopté sur le fond, on trouve au Japon le même type de rejet d'un autre dans la sphère de l'imitation. Quel va être cet autre que les Japonais ont rejeté dans la sphère de l'imitation ? La Chine, la Corée, depuis le début du XXe siècle. Quels vont être ces autres qui vont être rejetés du côté de l'imitation ? Les femmes. Donc, bref, tout le paradigme se déploie. On a exactement ce que je vous disais. Au Japon, tout comme on peut le trouver ici dans les différents pays occidentaux. Mais, et je crois que ces exemples que je passe de manière un petit peu discrète derrière montrent que, au Japon, comme dans de nombreux pays, les emprunts aux différents pays occidentaux restent visibles, superficiellement visibles. Les formes de départ sont trop éloignées pour que l'imitation s'oublie. Prenons un exemple, mais les images que je montre derrière vont dans le même sens. Entre un bourgeois japonais de la fin du 19e siècle qui met un chapeau haute forme, j'insiste sur le fait qu'il s'agisse d'un industriel, d'un bourgeois, et un paysan slovaque qui va mettre un haute forme à la fin du 19e siècle, c'est toujours le japonais qui aura l'air d'être déguisé. Le paysan slovaque, si on le regarde côte à côte, aura l'air au final, d'être dans son élément. Et pourtant. Bref, on a un problème de surface. On a un problème d'apparence. Mais l'apparence est essentielle, et l'exemple ici de cet artiste, Morimura Yasumasa, le montre. Les artistes japonais, plus généralement la société, elle a dû trouver un motus vivendi avec le programme moderne qui polarise imitation et création dans lequel ils étaient pris. Ce programme, je le vois, j'en vois quatre grands pôles. Enfin, il y a quatre manières, en fait, dont les Japonais ont réagi par rapport à ce modèle-là. Le premier, c'est ce que j'appelle le modèle classique. Vous en avez ici un exemple avec Tomioka Tessa, une œuvre de 1905. Certains sont restés sur le paradigme classique, au sens où on commence d'abord par apprendre ce que fait le maître, on reste dans son atelier, éventuellement un jour, si on a la possibilité, le talent, la chance, on va pouvoir fonder son propre atelier, le dépasser, tout en véhiculant dans son art l'apprentissage de son maître. En vérité, il y en a très peu de ces artistes-là. On peut quasiment dire que ça s'est éteint au début du XXe siècle. Deuxième cas de figure, c'est ceux qui sont entrés de manière frontale, dans une sorte de compétition mondiale ou quasi mondiale des créateurs. Ici, ces deux œuvres de 1912 que vous voyez, où l'effet de synchronie me semble assez net avec les peintres expressionnistes allemands, par exemple. On est dans une rivalité frontale, on essaye de trouver sa place dans ce grand monde globalisé, déjà un peu à l'époque, de l'art. Troisième cas de figure, très courant aussi, c'est ceux qui ont essayé de dépasser la modernité sur le mode, en tout cas le mode que j'appelle, sans doute vous ne le sentirez pas, mais je crois vraiment qu'il faut essayer de se mettre dans les dispositions pour le comprendre, sur le mode de l'ironie romantique. On est ici dans quelque chose de l'ordre de l'ironie romantique, où on surcharge l'œuvre de signes de japonité, alors même que toute cette tradition picturale avait cessé et avait été rompue à une époque. Et évidemment, en surchargeant en, l'œuvre des faits de japonité, des faits de locaux, il s'agit de retrouver au niveau du collectif, au niveau du Volksgeist, hein, ce que le génie que l'individu accepte de perdre. Mais il me semble qu'on retrouve, on trouve un quatrième modèle que je trouve particulièrement intéressant, qui n'est pas spécifiquement japonais dans son essence, mais qui a été beaucoup, en tout cas qui a été articulé, qui a été développé, qui a été réfléchi, notamment par un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nakai Masakazu, qui est un modèle que j'appelle alternatif, au sens où il repose sur une distribution alternative des deux pôles de l'imitation et de la création. La création reste fondamentale. Elle n'est pas du tout rejetée, elle n'est pas, il ne s'agit pas de dépasser quoi que ce soit. Elle est fondamentale, on l'assume, mais l'imitation est aussi assumée comme étant fondamentale. Il n'y a aucune tentative de refoulement, de cacher ce qu'on doit à l'imitation. Le retour à l'existant, le réel, le modèle, le ralentissement du tempo, si on place la question sur un mode temporel, apparaissent souvent, au contraire, comme une solution, ou en tout cas comme une des solutions possibles à la réalisation de l'œuvre. Ce qui fait qu'au cours de la genèse de l'œuvre, du produit, parce qu'on retrouve le même phénomène dans la fabrication des objets, ou dans le déploiement narratif, parce que c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans la littérature, l'imitation peut se trouver en position 1, on commence par imiter, mais elle peut trouver aussi en position 2, on a voulu d'abord rompre avec les modèles, et puis pour finir, on revient à quelque chose de l'ordre de l'imitation, en position 3, 4, 5, peu importe. Elle est là, elle est assumée, elle fait partie d'un ordre naturel, et création et imitation sont placées sur, on va dire, le même plan. Il me semble que ce déploiement libre du fer, le long de l'axe limitation-création, le long de l'axe imitation-création est le moteur secret des arts contemporains japonais. Je crois que la puissance, la beauté des productions culturelles japonaises, par exemple travailler sur Miyazaki, le metteur en scène de dessins animés que vous connaissez tous, va dans ce sens, et je crois que ça suffit à faire de ce quatrième modèle quelque chose à considérer de près. Mais, et j'en arrive maintenant à ma conclusion, bien que l'imitation ait été rejeté en Occident, le cas japonais, tel que j'ai essayé de vous l'expliquer, montre que elle est parfois plus proche de la liberté qu'on ne le croit. Comment dire ? Si les Japonais ont été particulièrement vilipendés comme imitateurs, particulièrement à la fin du XIXe siècle, au moment où on parlait du péril jaune, par exemple, parce que les Japonais avaient une propension naturelle à l'imitation, c'était les discours de l'époque, s'ils ont été particulièrement vilipendés comme imitateurs, au fond, pourquoi ? Parce qu'ils étaient autonomes, parce qu'ils étaient indépendants, parce qu'ils n'ont pas été colonisés. Et je crois donc que la critique de l'imitation japonaise a été particulièrement virulente parce que les Japonais étaient indépendants. Autrement dit, il y a quelque chose de l'ordre d'une liberté qui peut être attachée à l'imitation. Et je crois que c'est un enseignement extrêmement important dans une relation de domination. L'imitation du dominé n'est pas nécessairement le moyen de sa domination. Elle peut l'être, oui, évidemment, on le sait, mais le contraire est vrai aussi. Dans certains cas, l'imitation peut être un outil de résistance et d'émancipation. Et je vais, pour terminer, revenir sur la France, puisque, bon, très bien de parler du Japon, mais on essaye aussi de réfléchir à ce qui nous rassemble ici. Il me semble que les programmes scolaires, en particulier la manière dont les études sont envisagées au niveau supérieur, ont éradiqué, ou en tout cas vont dans le sens d'une éradication des pratiques mimétiques. Parce qu'évidemment, les pratiques mimétiques, elles étaient liées à des contenus qui étaient définis. Et on a voulu, je crois à juste titre, je comprends tout à fait la position, se débarrasser, remettre en cause ces modèles, remettre en cause le contenu qui passait par l'imitation. Mais je crois qu'on a fait l'erreur de remettre en cause autre chose que le contenu, c'est-à-dire la fonction imitative. Et je crois qu'il faut dissocier, d'une part, le contenu, l'imitation comme contenu, et l'imitation comme fonction. Du reste, on pourrait faire la même chose, ce que faisait Antoine Compagnon à propos de la création tout à l'heure, lorsqu'il nous disait qu'il y avait deux formes de création, si j'ai bien compris. Une création qui était formelle, qui était de l'ordre d'un contenu, où on change de manière artificielle un modèle de voiture, on passe de la Ford Galaxy 1962 à la Ford Galaxy 1963, et puis de temps en temps, ça peut être une vraie création, transformation fonctionnelle. Il me semble qu'en valorisant uniquement la créativité, on a engendré un système pervers, et les élites sont les grandes bénéficiaires de ce système, car non seulement les familles dans l'élite sont exigeantes sur les apprentissages mimétiques, mais elles incarnent le modèle à atteindre, vers lequel tout le système scolaire converge. Bonne élocution, réussite sociale, économique, culture, etc. Et puis, en plus, elles fournissent tout un ensemble de possibilités aux enfants de faire des rapprochements distincts, ce qu'on appelle créer. Autrement dit, d'être en position favorisée. Et tous ceux qui ne bénéficient pas d'un environnement familial porteur sont laissés dans un état de faiblesse qui interdit à la plupart une véritable autonomie. Je crois que, dans une certaine mesure, les pratiques mimétiques peuvent être porteuses de libération. Alors je parle pour ma chapelle, évidemment, mais l'apprentissage d'une langue comme le japonais, comme le chinois, comme l'arabe, qui réclame une attention extrêmement soutenue, où on ne peut absolument pas tricher avec l'apprentissage. Si on ne sait pas les caractères, on ne sait pas les caractères, on ne peut pas lire et on ne peut pas écrire. Dès lors qu'il provient d'un choix, dès lors qu'il est déconnecté de l'imposition d'un contenu, donc, est le lieu possible d'une émancipation individuelle. Je crois que c'est quelque chose à garder en tête. Autrement dit, conçu dans une perspective dialectique, comme le moment nécessaire de constitution d'un topos, autrement dit d'un savoir défini et partagé, ou du moins partageable, à partir duquel et à partir duquel seulement peut se réenclencher un mouvement critique, générateur de différences et de nouveautés, l'imitation est une fonction essentielle. Elle ne doit pas être cachée, refoulée, sauf à faire de la créativité le privilège de quelques-uns. Elle doit être assumée, elle doit être valorisée à la manière de ce quatrième modèle que je repérais dans la culture japonaise contemporaine. Et sous cet angle-là, elle est un vecteur indispensable d'une démocratie véritable et d'une écologie pour tous. Je vous remercie.
Merci, Michael Lucken. Vous rejoignez dans votre conclusion des arguments qui sont également ceux de Pierre Judet de Lacombe dans un récent livre « Penser avec les anciens » où il met en avant les mêmes idées pour défendre l'enseignement des langues anciennes car, je dirais, support d'une meilleure égalité scolaire en particulier.